wonder about you. Are you writing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée par Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Sophie Rosemont, Hugo Cassavetti et Christophe Comte. Sur nos platines encore, les specials, Eternal Live de Sleaford Mods, les bruits de la ville de Voyou. Il y aura également un coup de cœur de Sophie Rosemont pour Drift Code de Rustin Mann. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le concert fiction de France Culture Fahrenheit 451. Des places donc à gagner pour samedi soir, le 2 mars à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Mais nous débutons cette émission, on s'en serait passé en rendant hommage à Marc Hollis, dont on a appris la mort hier à l'âge de 64 ans. Il s'est fait connaître comme leader et chanteur du groupe Tok Tok, qui a connu un succès mondial avec son deuxième album, It's My Life, en 84. Par la suite, le groupe évoluera, livrera quelques splendides albums comme Spirit of Eden, dont on va entendre un extrait dans un instant. C'était en 88. Puis Marc Hollis avait pris sa retraite musicale en 98 après avoir sorti un album qui porte son nom pour titre. Même si les aficionados attendaient toujours un retour, il n'en est finalement jamais, il n'est jamais revenu. Un tour de table à propos de Marc Hollis ce soir après avoir écouté le début de Inheritance.
April sun, lilac snow fall, ten as one, on the breeze they flow. What gets my heart out? What gets my heart out of the house?
On a pris hier la disparition. Christophe Comte, on lira demain dans Libération le papier que vous avez écrit hier soir et qu'on peut lire sur le site, si tant est qu'on soit abonné, je l'imagine. Marc Hollis, quelques mots, quelques souvenirs, quelques sons pour vous?
Un son unique déjà, et un son qui a beaucoup, alors c'est paradoxal pour quelqu'un qui avait appelé son groupe Tok Tok, mais un son qui a beaucoup tourné autour du silence, de finalement de se dire que le silence est quelque chose dont on sait depuis John Cage qu'il est essentiel à la musique, et même avant John Cage, et de toute manière, toute la musique de Tok Tok des derniers albums et celle de de Marcolis tourne autour de cette idée de comment habiller le silence finalement. Pourquoi les notes autour, les vibrations, les harmonies ne sont qu'une manière de et c'est une leçon qu'il a peut-être tirée, alors je sais pas trop, hein, mais des enregistrements ECM par exemple. On retrouve une certaine familiarité dans les textures des instruments, et même dans l'emploi des instruments souvent venus du jazz. Moi ça m'a toujours frappé chez ECM, ces longs silences au tout début des disques par exemple. Et il y a ça chez Tok Tok, qui est un des rares groupes qui avait finalement signé sur un label de jazz, hein, chez Verve, en 91, pour le dernier album.
Ah oui, la suite, oui, pardon.
Voilà, et c'est un groupe qui est dans la sphère de la pop, a commencé de manière tonitruante, et qui petit à petit s'est amené lui-même vers une dérive des continents comme ça, qui donne cette musique qu'on entend, qui est absolument splendide si on s'y plonge vraiment, et ça a été quand même une influence qu'on a pu entendre disséminer vraiment partout dans toute la musique, on va dire post-rock, ou même dans la chanson française chez Bachung, qui était un très très grand fan de Tok Tok, qui a employé certains de ses musiciens d'ailleurs, et donc l'apport de Marcolis à la musique pas seulement anglaise, mais la musique d'aujourd'hui, certes un peu underground, et immense et irremplaçable.
Alors c'est vrai que Sophie Rosemont, vous avez prévu votre coup de cœur sur Russ Tinman. Il faut resituer Russ Tinman par rapport à Marcolis, forcément.
C'est Russ Tinman, c'est donc le nom de solo de Paul Webb, qui était donc le bassiste de Tall Talk. Et qui chantait souvent derrière, donc Marcolis.
On parlera lui tout à l'heure. Quelques souvenirs sur Marcolis, sur Tok Tok, pour vous.
C'est comme le dit Christophe, c'est avant tout, enfin pour moi en tout cas et pour beaucoup de gens, c'est avant tout une voix, qui se laissait, qui laissait place à la respiration et qui se laissait écouter et qui laissait aussi place à l'écoute. Alors, d'après mes souvenirs, il avait fait des études de psychologie. Je pense que ça peut s'entendre dans sa manière vraiment très. Très altruiste, si on peut dire, de chanter. Il y a une espèce de don là-dedans, et à la fois qui ne s'impose pas. Mais pour moi, c'est une des plus belles voix que la pop britannique ait portée à cette époque et encore aujourd'hui. Et j'ai un souvenir assez ému de son album solo, qui datait, je crois, de 98, qui portait son nom, Marcolis.
Voilà.
Et
le
qui
dernier.
Était une merveille. Voilà, on n'avait plus du tout de ses nouvelles depuis, et qui est une merveille mélodique, des paroles extrêmement sombres. C'est un album crépusculaire finalement, mais toujours porté par le côté un peu céleste de sa voix.
Hugo Cassavetti, pour finir ce tour de table.
Musicalement, j'ai pas ajouté grand chose puisqu'on est tous assez d'accord. Après, je me suis toujours demandé s'il n'y a pas eu un album de plus, mais sans nom et sans musique qui est sorti de lui. C'est ce qu'on pourrait, ce serait dans la logique. Donc, puisqu'on a très bien parlé de sa musique, je trouve que ce qui est d'assez extraordinaire dans le cas de Marcolis, c'est un parcours assez unique, quoi, de partir de quelqu'un d'assez autodidacte, qui part d'une techno-pop dans l'air du temps, qui a évolué à chaque album pour aller vers cette espèce de dilution, dissolution, d'apprendre. Et c'est toute la magie, pour une fois, pas que de la pop, mais du rock, de gens comme ça, qui apprennent et par instinct suivent leur instinct pour créer une musique vraiment définitivement originale, la sienne. Et en même temps, le mystère, c'est qu'il reste un mystère, ce qui est là aussi rarissime, c'est que ça fait 20 ans qu'il n'a rien fait. On a envie de se dire, quand on lit, il y a le tweet de son beau-frère qui dit, voilà, c'était juste un homme délicieux, un bon père et tout, et c'est pour ça qu'il l'a fait. On se doute bien que, et moi je sais, à l'époque du Tok Tok, l'époque du Colorado Springs, on sentait quelqu'un de profondément malheureux et torturé, quoi, de par rapport à ce milieu, par rapport à ce monde, et c'est ce qui s'exprimait, et c'est ça qui est très particulier dans la musique de Tok Tok, c'est qu'il y a cette douceur, cette beauté extrême, et en même temps une douleur intense aussi, quoi, et qui reste, quoi, et qu'on ait continué d'écouter.
Alors continuez d'écouter, en effet, Tok Tok. On voulait en tout cas saluer ce soir la mémoire de Marcolis. Avant de reprendre le fil prévu de cette dispute musique, ça dit un nouveau retour en arrière, hein, puisqu'on va commencer par parler des Specials. Là, on remonte encore plus loin. Moi, j'avais 14 ans quand le premier album des Specials est sorti, et depuis donc 40 ans, je n'ai jamais cessé de l'écouter. Je l'avoue très volontiers, je l'ai écouté encore et encore, ce qui tombe bien, puisque encore, c'est le titre de ce troisième album. Le premier depuis 37 ans, on a toujours des raisons de se méfier des reformations de groupes. Peut-être que le cas des Specials, c'est l'exception qui confirme la règle. On va en parler autour de cette table après avoir écouté Vote for Me.
see through. Not the best of places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold.
Specials, l'album s'appelle Encore. Alors encore ou trop?
Stop, c'est ça.
Stop. Non, c'est ça, oui. On pourrait faire une émission de radio sur ce principe, ça pourrait être une bonne idée, non? Je vais noter ça, parce que peut-être que je pourrais proposer ça un de ces jours. Christophe Comte, allez, on refait un même tour de table. Christophe, pour commencer, les Specials. Écoutez, je vous ai lu dans Libération également.
Oui, hein. Moi, j'étais, alors, comme beaucoup de gens qui ont écouté ça à l'époque, j'avais quand même un pressentiment qui me disait, oh là, c'est peut-être effectivement l'album de trop. Et puis finalement, alors, même si le début est compliqué, il y a un peu le premier titre qui est vraiment pas réussi, une reprise de The Equals qui est complètement ratée. Ce titre-là est quand même un réplica de Ghost Town, qui est la grande chanson des Specials. C'est une histoire très compliquée, les Specials. C'est un groupe qui avait un leader qui n'était pas le chanteur, qui est Jerry Dammers, qui a refusé, après avoir tergiversé la reformation il y a une dizaine d'années, repartir sur scène, parce que lui, justement, disait « il faut faire des nouveaux morceaux, on n'est pas un groupe nostalgique, il faut qu'on refasse des nouveaux morceaux ». Les autres ont dit « non, 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 on a envie de partir avec les anciens morceaux pour remplir un peu les caisses ». Donc ils l'ont foutu dehors. Et puis aujourd'hui, finalement, ils reviennent avec des nouvelles chansons, enfin presque des nouvelles chansons pour certaines, et surtout un son relativement renouvelé, alors même si c'est la même formule, alors ils sont beaucoup moins nombreux, forcément. justement. Ils étaient 7 au départ, là ils sont plus que 3. Les deux chanteurs sur 3 de l'époque, Terry Hall et Lynval Goldin, sont là, plus le bassiste. Et bon, ça donne quand même un disque des Specials qui tient la route. Déjà, c'est une bonne chose parce qu'on pouvait penser qu'ils avaient vraiment perdu complètement. Parce que en concert, ça restait bien, la reformation. Moi, je les ai vus au Bataclan.
Et d'ailleurs, ça, donc, sur le disque, on a un deuxième disque bonus beaucoup du concert de Bataclan et quelques autres titres.
Voilà, et c'était vraiment super à voir pour les gens qui ont connu ça à l'époque. Parce qu'il faut dire quand même que ces deux albums des Specials ont marqué vraiment l'histoire anglaise. Ils sont arrivés à un moment après le punk où la New Wave commençait, la New Wave assez sombre, assez climatique, avec des gens...
C'était les premiers Cure, Human League qui commençait.
Tous ces gens qui avaient quand même des tourments, et eux arrivent, ils ont l'air d'un gang, ils chantent une musique malgré tout qu'on connaissait très mal, les origines de la musique jamaïcaine, le ska, le rocksteady, avec à la fois des reprises, un son travaillé avec Elvis Costello, donc quand même dans l'influx du moment, très très énergique, il y avait eux et les Dexys Midnight Runners qui ont vraiment marqué le début des années 80 avec ce son à la fois disons vintage, mais aussi une énergie qui était totalement nouvelle et aussi une actualité dans les textes qui était l'arrivée de Margaret Thatcher
comme
première ministre. Et là on a un groupe qui sur ce premier album imparable mélange des classiques jamaïcains avec ses propres compositions, fait un sans faute, et un an plus tard arrive avec un deuxième album qui est totalement différent et qui présente des tas de musiques dont on avait rarement entendu parler, du boléro, des choses un peu easy listening, vraiment une auberge espagnole fantastique. Ce deuxième album est un classique absolu. Et puis ensuite, un single en plein été 80, tout le monde pense que les gens ont envie de faire la fête, ils font un truc lugubre qui termine numéro 1 quand même des charts en Angleterre. C'est phénoménal, un morceau Ghost Town, qui à l'époque est considéré comme l'un des plus grands singles de l'histoire de la musique, y compris depuis Like a Rolling Stone. Les gens sont hystériques et encore aujourd'hui, on le retrouve dans tous les classements. Et puis, cet accident de parcours qui est l'esprit de Jerry Dammers qui décide d'aller faire un autre groupe, Special AK, les autres qui vont faire Fun Boy 3, et puis cette bulle éclate et on garde un souvenir de ce groupe. Et là, aujourd'hui, on retrouve un peu tout ça, alors un peu affaissé par moments, mais il y a à peu près tout, il y a des mélodies. Moi, je l'ai dit dans le papier de Libé, il y a des gens qui m'ont dit « mais t'as déliré », je trouve qu'on n'entend pas assez Terry Hall.
Ah, je suis d'accord.
Parce que sa voix, alors on l'entend,
moi,
on l'entend, mais il est un ton en dessous maintenant, il est plus vieux. Il n'y a pas ce côté cinglant qu'il avait sur Gangster, ce genre de titre.
Pas l'énergie, évidemment, 37 ans plus tard.
À part ça, je pense que pour tous les gens qui ont aimé les Specials à l'époque, c'est vraiment un disque admirable, parce que 37 ans après, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça.
Je signe à vos côtés, Christophe. Hugo Cassavetti.
Oui, c'est vrai que c'est un disque digne. Mais pour revenir à Terry Hall, c'est étonnant, parce que la première fois que je l'ai écouté, je me suis même dit, mais il est où Terry Hall? On l'écoute, et c'est pas qu'on l'entend pas, c'est que sa voix, elle a mûri et qu'elle est plus grave.
Oui, aussi.
Alors que ce qui était particulier à Terry Hall, et c'était une des pattes et la marque des Specials, c'était ce mélange de ses voix noires, ce groupe mix de Coventry, avec cette voix très très blanche.
Et accentuée, à la production, sur les deux premiers, non?
Ah,
et
puis non,
c'est lent, mais non, c'était sa voix.
Moi, je les ai pas vus en concert à l'époque.
Justement, un peu ce qu'on appelle en anglais un peu deadpan, quoi, qui est dans son expression. Après, on sait aussi que c'est un dépressif chronique. Il y a même une chanson, il le raconte dans ce disque. Et c'est ça aussi qui a créé un peu la séparation
du groupe.
Mais après, on peut se demander effectivement sur l'idée, est-ce que c'est un vrai album des Specials? Qu'est-ce que c'est un vrai album des Specials? On pourrait presque dire que c'est une reformation de Fanboy 3, après tout.
C'est vrai.
Puisqu'ils reprennent un morceau de Fanboy 3. Ouais. Mais évidemment, ce qui marche, c'est les Specials, la marque. Et c'est vrai qu'en concert. Mais je trouve que là aussi, pour cet album, là où on voit qu'il tient quand même la route, c'est qu'ils ont ajouté un album entier de live, actuel, et que je trouve que c'est pas, on se dit pas, on passe vite au live, quoi. Dit même que la plupart de ces morceaux tiendront la route dans live quand ils vont revenir en avril. Après, ce qui est un peu particulier, effectivement, c'est ce mélange. Il démarre plutôt sur deux morceaux de funk, il joue avec les sons, parce que le deuxième morceau redémarre avec exactement la même intro, qui est un morceau, là, c'est Golding qui raconte, en fait, l'histoire de son père arrivant en Angleterre. Donc c'est un disque qui prend beaucoup de sens actuellement, comme ils en avaient exactement à l'époque de Thatcher. Ils reviennent à un moment où c'est pertinent. C'est ce qu'ils disent, d'ailleurs. Ils tournaient depuis un moment, ils gagnaient beaucoup d'argent, et ils se sont dit, eh ben ça y est, on le sent que ce serait pertinent
on
de faire
quelque
un
chose
disque.
À dire
on s'attendait
maintenant.
Un peu plus, un peu moins de reprises, mais quand même il détourne des choses et on a l'impression, ça c'est un petit détail, qu'ils veulent rattraper un petit truc qui écornait très légèrement leur passé, c'est qu'ils avaient une image exemplaire et quand même il y avait tous ces morceaux de Little Beach, de tous ces trucs, pas exactement, c'était pas les grands féministes, les specials à l'époque. Il y avait tout ce public un peu skinhead.
Donc là, ils ont
aujourd'hui
rattrapé,
ils ont repris les Ten Commandments de Prince Buster qui était une des chansons les plus machistes qui soit et en la retournant complètement en brûlot féministe
avec
comme
une
si
jeune
c'était un petit
activiste anglaise incroyable ce titre est... Splendide, moi, je trouve.
Sophie Rosemont.
Oui, c'est sans doute un de mes titres préférés de l'album, hein, Ten Commandments, donc de Safia Khan, qu'ils ont repéré parce qu'elle portait un t-shirt de Special, donc à cette fameuse manifestation. Et là, elle a 21 ans, et c'est vrai que les paroles méritent d'être lues, parce qu'elle détourne complètement tous les principes misogynes, elle est clairement dans une logique anti-patriarcale, elle détourne aussi tous les codes de la culture du viol. Et moi, j'avais jamais ressenti spécialement la misogynie des Special dans leurs albums précédents, mais en tout cas, je pense pas que ça soit opportuniste. Et ce que j'ai apprécié dans cet album, c'est effectivement l'engagement qui est toujours là et qui est une suite assez logique, hein, de leur engagement passé. Mais c'est pas un engagement lourd, répétitif, concert comme certains autres dont on parlera plus tard. C'est assez léger, c'est assez groovy, forcément. Même si je rejoins Hugo sur le côté funk, pour moi, il y a autant de funk que de ska dans cet album.
C'est un peu
le problème.
En tout
cas, ça se partage un peu la part. Et ça me plaît.
Ah ouais.
Plutôt
non,
pas mal,
je
trouve ça assez assez digeste. Mais voilà, ce titre, c'est pour moi un des points d'orgue de l'album, avec BLM, hein, Black Lives Matter, effectivement, qui est même pas auto-fictionnel, qui est clairement autobiographique et qui est assez touchant. Et où là, je trouve la verve est au rendez-vous. Donc oui, c'est un album réussi et qui méritait de sortir maintenant.
Christophe Comte.
Ce qui est étonnant sur Ten Commandments, c'est que c'est un titre qui ressemble beaucoup à un morceau de Special Aka avec
The Boiler
avec Roda Dakar, qui était un titre effrayant sur un viol. Et c'est marrant de voir que ces gens qui s'étaient séparés à l'époque se retrouvent là. Il y a une sorte de mélange un peu étrange.
Dernier mot,
autre chose
que
juste
ça
sur la pertinence de ce disque, qui est peut-être un peu en deçà, c'est qu'il y a un disque, qui est un des disques majeurs, je trouve, qui est sorti à la fin de l'année dernière, sur tout ce qui se passe en Angleterre, c'est Maryland, The Good, The Bad and The Queen, qui en l'écoutant me disait, tiens, c'est ce que pourraient faire, devraient faire les Specials s'ils revenaient. Et il y a quelque chose dans la sonorité, on dirait du très bon Terry Hall, c'est probablement le Good, The Bad and The Queen. Le Specials est quand même un peu en deçà, mais c'est un disque qui est touchant, en tout cas, et attachant pour toutes les personnes qui ont aimé et qui aiment les Specials, quoi. Ouais.
Écoutez encore de Special chez Barclay, les concerts à venir 30 mars à Bruxelles, 31 mars à Luxembourg et le 8 avril à Paris, à La Cigale. Nous allons parler dans cette émission ensuite de Stephen Motz, de Voyou et de Rustin Man.
Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la musique avec Eaten Alive, le nouvel album des Stephen Motz, duo composé de Jason Williamson au chant et d'Andrew Fearn pour la musique. Et cette émission qui me permet de découvrir un groupe que je ne connaissais absolument pas. J'étais passé complètement à côté de Stephen Motz et moi ça me semble tout de suite essentiel dans le paysage. Je dis ça en regardant Sophie Rosemont qui a fait un sous-entendu, je crois, sur ce qu'elle va nous dire tout à l'heure. On écoute Kebab Spider avant de parler de l'album.
Don't put your thinking big. The stinky goose in new rock shoes and films. interest. They ain't highlighting no pain. Some documentaries on Channel 4 are only in it for the fame. We ain't shoeshine boys for fakers. Bingo pulse with brick and backers. You've had a record deal for nearly 30 years. What do you know about agencies? Looking for jobs and shit wages. Make memory alone. Don't justify your TV times. Johnny Ramone, Sid, kebab spiders, easy riders and flag tits. You're just saying it all to look good. You're just saying it all to look good. You're just saying it all to look good. Oh no. Oh no. Oh no. They got the experts in. Oh no. Oh no. Oh no. They let the film stars in.
Kebab Spider des Sleaford Mods, extrait de ce nouvel album Eaten Alive. Hugo Cassavetti, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il chante là, notre ami Jason Williamson?
Jason Williamson, après, non, mais juste pour introduire, c'est vrai qu'on dit toujours que les blagues les plus courtes.
Les gens ne veulent pas répondre à mes questions dans cette émission.
Oui, toujours. Je suis de quoi, mais...
Et ça, c'est mon côté Jason Williamson. Ça va devoir changer, mon cher Hugo. Vous lirez la note de service.
Qu'est-ce que chantent les Sleaford Mods? Tout, tout, ils désinguent absolument tout en commençant par eux-mêmes, ce qui est quand même une qualité. Mais effectivement, on pourrait partir du titre de l'album Eaten Alive, qui est un jeu de mots sur Eaton, donc c'est manger vivant, mais Eaton écrit comme le collège UP d'où viennent la plupart des élites anglaises. Et, mais ce n'est pas que là-dessus. Bien sûr, ça c'est la case départ, quoi, que forcément, et ce qu'on arrive, c'est l'Angleterre est un pays encore et toujours dirigé par des gens de classe supérieure, avec une éducation, ça a toujours été ça, payante et chère. Pour former une élite qui ensuite prend des décisions quand ils sont conservateurs, généralement aux dépens de tous les autres. Et comme ça, on arrive au Brexit. Mais s'ils se contentaient de dire ça et sans humour, ce serait bien, utile. Et on pourrait se dire, voilà, au bout d'un disque, c'était fait. Le rap qui continue, ce qui est terrible, on peut trouver ça extrêmement... justement nihiliste et cynique, sauf que c'est moins des nihilistes que Fat White Family, c'est qu'ils mettent tout le monde en cause, parce qu'ils mettent autant dans la balance, en gros, le peuple anglais, dans sa majorité, juste ses comportements de consumérisme, de suivisme, ou de passivité, d'être tout aussi responsable de ce qui se passe, et avec eux au cœur de ça, qui disent eux aussi, voilà, ils peuvent pas s'empêcher de regarder de s'abonner, on va pas des chaînes payantes, sans intérêt, non, mais de consommer, d'être pris dans ce flot et de ne jamais sortir de cette culture-là qui fait que tout le monde est pris dans la même nasse. Et donc, il le constate. Alors, on peut trouver ça assez, si on veut, triste et épuisant, sauf qu'il le fait avec un tel humour, une telle verve, il faut savoir d'où ils viennent. Donc, revenir, d'où viennent les Sleaford Mods. C'est un groupe qui est apparu il y a plus d'une dizaine d'années. C'était assez marginal, indépendant. C'était surtout Jason Williamson tout seul. Et puis, il y a maintenant 6-7 ans, il a rencontré Andrew Fern, qui fait les musiques, et ça marche à deux. Jason Williamson, c'est un type qui vient, ils viennent de Nottingham. Ils ont plus de 40 ans, donc c'est pas des jeunes. Un jour, je l'avais rencontré, il me dit, c'est ça, là, ce qui va pas dans ce pays, c'est que pourquoi le groupe qui excite le plus les gens, en tout cas qui veulent un groupe qui secoue les choses, ça ne devrait pas être des gens de 45 ans, ça devrait être des gens de 18 ans qui, eux, ne font que de la merde, en gros. insipides à la télé, des trucs comme ça. Et c'est, ça aussi, c'est un problème, il dit, que nous, on puisse avoir du succès aujourd'hui. C'est un type qui a passé tous les trucs, il a voulu être à faire du rock, il a fait des petits boulots, il a été dans la cam, junkie et tout, il a essayé de faire du rock à la Stone Roses, Oasis, il y a 20 ans, ça n'a pas marché. Et puis, il a eu l'illumination en découvrant au début des années 2000 aussi des groupes comme le Wu-Tang Clan en disant oui, c'est ça, il faut laisser tomber tous les clichés rock et essayer d'adapter. Et c'est ça que moi j'aime, peut-être parce que je suis pas un fanatique du rap, ça m'intéresse, mais pas assez. Et c'est peut-être probablement ce qui se rapproche le plus de ce qui était intéressant à l'époque du punk, mais adapté à toute cette culture. Ce serait ce qui se rapprochait le plus d'un très bon rap, mais de d'obédience quand même, rock, anglaise, blanche, et qui parle de ça, de c'est pas les Cockneys qui sont de Nottingham, et qui déverse cette bile, mais avec un flow ininterrompu, c'est rien, c'est les deux sur scène, tout est dans les veines du cou de Williamson qui part en vrille, et c'est assez fabuleux. Et juste se disent, pourquoi un disque de plus encore, comme diraient les trucs, parce que dans la répétition, ils évoluent. Voilà, on peut continuer.
Alors, qu'on lance vers Sophie Rosemont.
Dans la répétition, ils évoluent. J'aime beaucoup la chute d'Hugo. Oui, c'est vrai qu'ils évoluent, mais il y a de la répétition. Je trouve que c'est effectivement une bonne démonstration de l'alliance punk et rap, pour schématiser, que les Sleaford Mods. J'aime cette énergie, ce côté engagé, toujours. Ok, mais alors, moi, 12 chansons, les 12 se ressemblent énormément. Il y a deux ou trois titres qui se distinguent comme celui qu'on vient d'écouter, Kebab Spider et When You Come Up To Me, que je trouve vraiment incroyable. Mais déjà, sa voix me tape sur les nerfs, en fait, au bout de quelques titres. Et il y a quelque chose d'assez lourd, rondondant aussi bien dans les paroles que dans les sonorités. Je trouve que cet album-là est mieux que le précédent, mais lui ressemble énormément, qui lui-même était mieux que le précédent, mais lui ressemblait énormément. Et je trouve que ça s'essouffle un peu, même si lui ne s'essouffle pas. Et ça, il faut quand même le souligner. Et autre point positif, parce que j'en ai quand même, c'est dans les textes, il y a ce côté très engagé, très pragmatique, et aussi quelque chose qui tient du no sense, un peu à la Lewis Carroll, un peu absurde, que je trouve assez rigolo, et qui me fait penser que Jason Williamson n'est pas un ancien tox qui essaye derrière son micro et cracher toute sa haine des riches, qui a quelque chose d'assez peut-être une espèce d'autodérision peut-être, mais oui, cette répétition pour moi me gêne.
Vous lasse
dans cet
un
album.
Peu.
Ça me lasse et sa voix aussi me lasse. Donc ça suffit pas pour moi pour que je l'écoute en boucle. Même si là, j'avoue que Kebab Spider, j'ai hoché la tête, je me suis laissé prendre
voilà,
quand même.
On va vous le repasser 2-3 fois. Christophe Comte sur Sleaford Mods.
Moi, j'ai une sympathie bienveillante pour Sleaford Mods, même si je dois bien vous avouer que les premiers albums ont un peu tapé sur les nerfs aussi. J'en avais un peu marre. En plus, tout le côté, alors ce discours un peu gilet jaune là, l'élite, le machin, bon, ok. Après, quand on prend un pas de recul et qu'on regarde un peu leurs interviews, enfin surtout, je sais plus comment il s'appelle, le leader, parce que l'autre, il parle pas du tout. Hein. Mais il y a une vraie humanité et puis il y a une conscience politique assez élaborée. Par exemple, ils sont très européens, alors qu'on pourrait dire que voilà, vu que c'est des déclassés, un peu sociopathes et tout ça, ils seraient forcément pour le Brexit. Et, au contraire. Et puis il y a quand même un savoir-faire qui commence à s'affiner. C'est vrai que notre camarade, donc l'autre qui parle pas, paraît-il qu'il a eu une rupture amoureuse, du coup il a eu un peu plus de temps pour soigner les musiques, et ça fait pas de mal parce que, alors il vient de la scène grime hein, je crois, donc il était DJ, il y a de ça, il y a des bidouillages électroniques qui rappellent un peu le grime, avec par-dessus cette voix qui prend tout l'espace, qui sonne aussi bien effectivement comme une voix de rap, mais aussi un peu comme du Yann Dury par moment.
Avec et du Johnny Rotten.
Il y a ça, il y a vraiment ce côté punk un peu brut de décoffrage. Et je dirais, c'est vraiment de la musique hypnotique parce qu'au bout d'un moment, quand on l'écoute beaucoup, il y a vraiment les airs rentrent de manière assez insidieuse. Et moi, au départ, ce disque, je suis rentré dedans en me disant, ah là là, il faut vraiment que je m'y plonge vraiment cette fois et pas en écoutant de loin. Et petit à petit, je me mets à fredonner les morceaux. Donc, il y a vraiment des mélodies. Il y a quelque chose d'assez étonnant qui moi me satisfait pas complètement parce qu'au bout d'un moment encore dans cet état-là un peu plus sophistiqué, ça continue à me tirer un peu sur les nerfs, mais je dois reconnaître que je comprends tout ce qui a été dit sur ce groupe et tous les gens qui les vénèrent depuis des années. Moi, je les prenais un peu pour des dangereux sociopathes aussi. Et là, non, je commence à comprendre. Et je comprends aussi, on l'a saisi assez vite, la ressemblance avec The Fall. Et je pense qu'il y a ça aussi dans ce côté. Chez Marky Smith, c'était vraiment de la misanthropie au premier degré. Là, c'est un peu plus humoristique. Mais dans la manière de ce que ce groupe a d'avancer, c'est très vite de sortir beaucoup de morceaux de maxi. Il y a ce qu'on retrouvait chez The Fall au début des années 80. C'était un groupe de l'Angleterre brûlante et un peu comme les Specials dans un autre genre. Là, je trouve qu'il y a ça. Il y a peu de groupes aujourd'hui en Angleterre, vraiment très peu, ou en tout cas on les connaît pas, qui arrivent à capturer cette tension-là. Et je trouve que pour ça, ça mérite quand même d'être approfondi.
Oui, juste un petit mot pour ajouter que moi j'ai fait une écoute un peu accélérée des précédents albums. Je suis pas d'accord avec vous, Sophie Rosemont. Je trouve qu'ils sont assez différents les uns des autres et je trouve qu'au sein de ce nouvel album, il y a quand même beaucoup de choses différentes et que effectivement plus on y plonge et plus on y trouve des différences, enfin c'est assez logique en même temps, mais que il y avait une sorte de minimalisme plus punk que rap dans certains des disques précédents qui effectivement, j'imagine quand on les se prête pas forcément à une réécoute assidue, et il me semble que celui-là quand même a beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus de variations, une production en effet, et c'est pas plus mal, qui est plus élaborée. Donc moi je crois que je vais y replonger encore un petit peu. Hugo Cassavetti.
Ils en parlent bien, c'est qu'ils disent, ils sont très conscients, en tout cas lui, qu'ils doivent parvenir à évoluer et en même temps plein de choses. Ils ont envisagé des chœurs à un moment, ou des choses comme ça, et en même temps ils disent non. Ou même un duo, il dit tiens, je pourrais faire un duo, et on me dit non, c'est encore trop tôt. Donc ils savent bien, et c'est pour ça que c'est vraiment par petite dose. Il y a effectivement une vague introduction, il se met à chanter sur une ou deux chansons.
Et
de la même manière que l'autre affine ses arrangements, ses rythmes et tout ça.
Il s'est inspiré des albums de Drake, apparemment, Andrew Fern.
Il a bon goût. Frank Ocean aussi.
Mais encore plus drôle. James Williamson se réfère à Alexander O'Neill et tous les soulmen des années 80 en disant qu'il a beaucoup écouté. Oui.
Exagérant, rien.
Non, se réfère. Il n'a pas dit qu'il se compare.
Oui, c'est étonnant quand même.
Bon, écoutez par vous-même. Il faut qu'on accélère parce que le programme a été un peu bouleversé. Écoutez Eternal Live de Sleaford Mods. Pas de concert à venir, hélas, moi j'ai hâte de les voir sur scène. Extreme Eating Records. Le coup de cœur de Sophie Rosemont, comme annoncé, il est pour Drift Code Rustin Man. Il est sorti chez... Non, il sort dans quelques jours, samedi, vendredi, le 1er mars. Je ne sais plus, c'est vendredi le 1er mars, non ? Chez Domino. Et on écoute un petit bout de Judgment Train.
Yeah.
férocement. Alors, quelques mots sur cet album de Rustin Man, Just Brent Train.
Il faut savoir que c'était aussi un album inespéré, parce qu'on n'avait pas de nouvelles depuis 2002, depuis un très bel album qu'il avait fait avec Bess Gibbons, Out of Season. Bess Gibbons qui figure dans les remerciements de Drift Code, donc ce nouvel album, cet album de retour, et qui voilà, sort quelques jours après la mort de son ex-comparse, qu'il n'avait pas vu depuis quelques années, mais qu'il considère comme un génie musical, et qu'il a salué de façon très émouvante et très sobre à la fois.
Alors pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, son comparse Mark Hollis, puisque Rustin Man, alias Paul Webb, était le bassiste de Tok Tok.
Voilà, le bassiste de Tok Tok. Et là, donc, il a joué forcément de la basse sur cet album, mais après avoir enregistré des albums, les instruments, excusez-moi, un par un. Cet album était une espèce de collage à tout point de vue, du point de vue vraiment de la confection, de l'enregistrement, instrument par instrument, et par les genres. C'est-à-dire que c'est globalement de la britfolk, mais nourri de prog rock, nourri de blues, nourri de jazz, et transpercé par sa voix. Moi, sa voix me touche énormément. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup l'occasion de chanter. Et là, qui la laisse complètement sortir, et elle m'émeut. On entend beaucoup Robert White, je trouve, Wyatt ici, Syd Barrett, et pas que, et lui, tout simplement. Et là, elle a eu une très jolie phrase qui est « La vie est un puzzle que l'on ne peut terminer car la réponse est en constante évolution ». Et c'est un petit peu ça, cet album qui part à la fois dans tous les sens et qui est très condensé, qui est très mélancolique, l'harmonie et la contre-harmonie, et à la fois pleine d'un bonheur très simple qui est celui d'être vivant, qui résonne d'autant plus fort aujourd'hui, et avec ces images assez mélancoliques et de sépia. Et une petite image qui m'a beaucoup marquée à l'intérieur de l'album, c'est on voit plein d'objets, de masques tribaux, asiatiques, qui viennent de plein d'époques, qui sont réunis sur une étagère comme un mini cabinet de curiosité, et au milieu un cadre où sans doute lui embrasse sa femme. Et cet aspect assez romantique et émotionnel me touche beaucoup dans cet album, qui est voilà, pas forcément les confessions, mais le récit d'une vie, d'un parcours, d'un homme qui a beaucoup, beaucoup fait pour la musique britannique et internationale.
Drift Code de Rustin Man sort ce vendredi le 1er mars chez Domino.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Le dernier disque sur nos platines ce soir, c'est Les Bruits de la Ville de Voyou, Thibaut Van Hooland, de son vrai nom, Voyou qui s'est fait connaître avec un premier morceau, Seul sur son tandem, et des premières parties de concert pour Fishback ou Eddie Depreto. Il livre son premier album, on écoute la chanson qui le clôt, c'est Lille. On entendra Voyou jouer de la trompette, puisque c'est un instrument qu'il a étudié au conservatoire.
tes rues pavées de souvenirs. Vis si je pars, si je te prive de mon passage, c'est que mon cœur a pris le large à bord du fleuve qui te traverse, et tout au fond gisent mes rêves. Ce soir tu t'éteins devant moi, et si c'est pour la dernière fois, laisse-moi profiter encore du doux parfum de ton corps, des émotions qui te parcourent, de ma tristesse qui suit son cours.
Voilà pour cet extrait de l'album Les bruits de la ville de Voyou, et c'est Sophie Rosemont qui commence à nous en parler.
Donc Voyou, c'est Thibaut Van Hollande, donc un jeune Français, comme on l'a pu comprendre, attaché à la ville de Lille, où il a vécu ses premières années avant d'évoluer, on va dire, du point de vue de l'adolescence et du point de vue musical à Nantes. Donc c'est quelqu'un qui a appris avant tout de la trompette, comme on vient de l'entendre, et aussi de la basse, et qui à Nantes s'est illustré dans plusieurs groupes de rock, plus de pop avec des groupes de rock au lycée, ensuite des groupes de pop avec Pégase, Rome for Pauline, et qui maintenant se lance en solo. C'est son premier album, ça s'appelle Les bruits de la ville. Et moi, je suis assez charmée par sa sincérité, sa spontanéité, ses imperfections aussi, par son côté musique fait dans sa chambre, tout seul, à qui il a donné une nouvelle ouverture, du point de vue orchestral, du point de vue influence. On entend aussi bien de l'exotisme des îles que des échos nippons, ici et là. Et puis, il y a l'apport d'un producteur brésilien qui s'appelle Diogo Strauss, qui est quand même assez doué. Et il y a des morceaux comme celui-ci, Lille. Étonnamment, je suis plus charmée par la fin de cet album, les trois derniers titres, qui sont en l'occurrence Les bruits de la ville, un duo avec Yael qui est assez dynamique, Les trois loubars, qui est une espèce de petite comptine assez rafraîchissante, et Lille, qui est une très belle balade, que par le début, qui peut parfois être anecdotique. Mais en tout cas, moi, j'aime sa spontanéité, sa fraîcheur, sa fausse naïveté, parce que derrière tout ça, derrière les couleurs aussi de son album, les couleurs au sens propre aussi du visuel, il y a une mélancolie qui est vaguement dissimulée, mais qui est assez séduisante.
Séduit, Christophe Comte, par Voyou ?
Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à la manière dont je vais pouvoir dire à quel point j'ai détesté ce disque, sans pour autant blesser la personne qui l'a fait, qui est sans doute un garçon très bien.
On parle des disques, on parle des livres, on parle des films, on ne parle pas des personnes.
Parce que voilà, bon, moi, j'avais rien a priori, j'avais écouté ses premiers maxi, ça m'avait un petit peu traversé la tête sans laisser beaucoup de traces, mais je me souviens quand même d'avoir été un peu charmé. Puis là, je me dis, 20 ans après Mathieu Bogart, est-ce qu'on a envie d'avoir des réplicas, des photocopies de sixième génération de ces gens qui n'ont rien à dire, sinon qu'ils sont braqués par des loubards, mot qu'on n'emploie plus depuis 1962
Renault,
déjà il y a un truc là qui m'a semblé complètement décalé, en plus la chanson est quand même un peu débile, il y a beaucoup de chansons comme ça qui servent absolument à rien, avec des textes, on ne sait pas très bien de quoi ça parle. Alors effectivement, celle qu'on a entendu D'un coup, comme elle est assez frontale, il rend hommage à sa ville. C'est bon, c'est très bien. On attend un featuring de Martine Aubry à un moment qui vient pas. Ou de Pierre Mauroy, pourquoi pas. Post-mortem. Mais en tout cas, c'est vrai que là, je me suis dit stop, quoi. C'est vrai, on en a entendu tellement. Moi, cette scène française, je la condamne pas du tout. Au contraire, je suis parfois très client de certains. Mais je trouve dans sa globalité aujourd'hui, cette nouvelle variété, qui en plus a vraiment le défaut par rapport à la vraie variété, c'est qu'elle ne vend pas du tout. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne. Tous ces groupes-là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, les pirouettes, cacahuètes, tous ces trucs-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Peut-être à des gens dans les agences de pub sur un malentendu qui peuvent claquer ben ouais, ça sur ça, une pub pour voiture.
Qui cherchent des featuring.
Et c'est synchro, tout. Ouais. Ça ne dit rien. Ça dit quelque chose d'une époque de pas grand chose. C'est-à-dire que là, on a évité à peu près le côté réseaux sociaux, machin, parce que des fois, il y a ça aussi qui est vraiment, pour le coup, très embarrassant. Mais je trouve surtout, pour finir, c'est quand on a une voix pareille, on fait pas chanteur, on fait autre chose. Enfin, ou on fait musicien, mais on chante pas. Enfin, c'est très. Là, on parlait des Sleaford Mods tout à l'heure. La voix est agaçante, mais elle a un timbre, elle a une signature, comme on dit à la The Voice. Mais là, il y a rien. Il se passe rien.
Bon, Hugo Cassavetti pour vous.
Non, mais juste sur toute cette vague de duo, de solo, synthé, pop française. C'est vrai que je pense qu'on sait que je déteste ça, quoi. Je trouve que c'est. Mais le problème, c'est qu'effectivement, elle ne marche pas, ça n'intéresse pas grand monde, mais elle jouit d'un soutien délirant dans la presse et partout, quoi. Donc voilà, ça c'est une question, je m'interroge toujours là-dessus.
Parce que je pense qu'il faut un contrepoint au rap.
J'ai pas détesté, moi, Voyou. Il y a justement Lille, les deux, trois chansons épurées... Il neige.
Les chansons lentes.
Et une fille qui s'appelle La fille sans visage, que j'ai trouvé.
C'est peut-être celle que je préfère.
Moi, sa non-voix, on peut pas dire que ce soit ni le premier ni le dernier, quoi. Donc, même ça me dérange pas, outre mesure. Après, moi, je suis plutôt très gêné. Et pour la chanson des trois loupards, c'est une gêne. Voilà, on dirait typiquement du mauvais Vassiliou, quoi. Vassiliou avait une personnalité. C'est ce qu'un Vassiliou essaierait. C'est ce qui passait chez Vassiliou d'avoir cette espèce de semi-bossa et tout. Et c'est ça, voilà. En gros, il me plaît quand il ressemble à une version un peu soft, moderne, d'un vaguement Souchon, mais tout le reste, c'est quand c'est du Michel Fugain, je peux pas, quoi. Et il y a un côté Michel Fugain, et on dit que c'est juste un bonheur pour jeunes lecteurs de Schnock, quoi. Genre l'idée qu'on réinvente ce fantasme d'une variété 70, années 70, mais qui n'a même pas le charme d'être authentique des années 70.
Mais certains y parviennent.
C'est un peu épuisant,
même,
quoi.
Certains y parviennent, mais bon.
Mais c'est pas dérangeant d'inventer une variété des années 70.
Oui, mais la variété des années 70.
Sauf qu'elle n'a rien, elle n'a pas d'ampleur.
Et puis il
n'y
a pas que ça, c'est très contemporain.
Il y a l'album de Séverin qui vient de sortir, qui pour le coup est vraiment très inspiré par Vassiliou, voire copié sur Vassiliou. Bon, il a un peu plus d'ancienneté, et je trouve que voilà, ça fonctionne un peu mieux. C'est pas génial, mais à comparer, je trouve quand même que ça tient un peu plus la route. Là,
bon,
c'est...
je rejoins mes camarades. Sophie, un dernier mot positif pour conclure cette séquence sur Voyou.
Bah, écoutez, quand
vous
même,
allez le voir en concert. Vous irez le voir.
Non, c'est un petit peu un homme orchestre absolument charmant. Il faut aller le voir. Et je pense qu'il faut pas être aussi cruel avec les jeunes artistes.
On est là pour dire ce qu'on pense.
D'abord, c'est pas des jeunes artistes, il y en a trop.
On parle pas des personnes.
Donc, je pense qu'il faut être cruel.
Des disques.
Écoutez Lille et vous serez ému.
Ouais. Mais je préfère encore
La fille sans visage.
La fille sans visage.
La fille sans visage, qui est un très joli morceau.
Je vais le garder. Et beaucoup de concerts à venir pour Voyou, donc dans le disque Les bruits de la ville vient de sortir chez Entreprise. Quelques dates, le 16 mars à Marseille, le 22 à Lyon, le 10 avril à La Cigale, le 23 mai à Montpellier. Ça ira donc aussi à Saint-Malo le 1er juillet et même à Dour pour le Dour Festival le 14 juillet. On fait gagner ce soir, quoi donc, Sarah Dion, qui va nous le dire dès à présent. Des invitations, non, pour les invitations pour le concert Fiction de France Culture, Fahrenheit 451. Des places à gagner, donc, pour cette représentation qui aura lieu samedi 2 mars à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio. Dire quand même que parmi les interprètes de ce concert Fiction, c'est pas la question, non, c'est pas ça la question. Il y aura Judith Chemla, André Wilms, Xavier Gallet, beaucoup de monde. Le Quatuor Ellipse, une musique originale de Quentin Sirjac. Bref, beaucoup de belles choses ce samedi soir. Pour gagner des places, on répond à quelle question? Sarah.
La question est: à quoi correspond la température de 451 degrés Fahrenheit?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com.
Toutes les informations sur cette émission à retrouver bien sûr sur franceculture.fr à la page de la dispute. Demain à 19h, une dispute art plastique avec Anaël Pigeat, Frédéric Bonnet et Fabrice Bousteau. Nous parlerons de l'exposition Amalgame de Theatres Gates au Palais de Tokyo, d'Alex Majolis et Tobal, Paul Serruzier au Musée d'Orsay et un coup de cœur de Fabrice Bousteau pour la Biennale de Cauchy en Inde.